This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Happening! Forward! March!
Un royaume, un pays tout à soi qui n'a jamais rêvé d'être le souverain d'une terre imaginaire. Gregor MacGregor l'a été, mais ne vous fiez pas à son nom qui sonne comme un comique de répétition. Le personnage n'a rien de rigolo. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, en mode été. Et on va vous raconter l'histoire d'un escroc légendaire, un personnage qui fait partie d'une série que vous pouvez retrouver dans les Échos, en infographie. Il a réalisé un rêve d'enfant avec les objectifs d'une vraie canaille et abouti au bilan humain d'un criminel. Qui est ce Gregor MacGregor et qu'a-t-il eu l'audace de faire ?
Gregor MacGregor, il a inventé carrément un pays.
Jules Grandin est le chef du service infographie des Échos.
Il ne s'est pas contenté d'ailleurs d'inventer un pays, il l'a un peu créé de toutes pièces, et ensuite il est allé le vendre et en faire la promotion, essayer d'y attirer des migrants, et le vendre sous la forme d'obligations, donc des missions de dette de ce pays imaginaire qu'il avait créé de toutes pièces.
Que sait-on du personnage et à quelle époque on est ?
C'est un Écossais et il naît dans le clan MacGregor à toute fin du 18e, en 1786. Et le clan MacGregor, on le connaît assez bien puisqu'il est retraçable jusqu'aux années 800. En Écosse, c'est un clan assez ancré. En tout cas, il va être bien éduqué, il a des bonnes manières. Et par ailleurs, le clan est assez connu en Écosse parce que c'est un clan qui s'est fait ostraciser pour des raisons religieuses à un moment. Et du coup, il y a des ancêtres de Gregor MacGregor qui sont assez connus.
Que choisit-il comme voie quand il s'engage dans sa vie d'adulte, à 16 ans ?
Il s'engage dans l'armée britannique et il va faire quelques années de garnison dans le sud de l'Angleterre. À l'époque, on craint une invasion française, on fortifie à fond le sud de l'Angleterre, il passe quelques années là. Et puis, comme il a un petit peu d'argent, comme je vous ai dit, il vient d'une famille plutôt aisée, il va s'acheter une charge de capitaine dans l'armée. C'est-à-dire qu'il doit payer une certaine somme pour avoir le droit d'avoir ce grade au sein de l'armée britannique. Du coup, c'est quand même un achat conséquent, plusieurs centaines de livres, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et surtout, il aurait pu faire le choix d'attendre 5 ans et de l'avoir automatiquement, ou d'attendre 7 ans et de l'avoir automatiquement. Mais il a fait le choix de payer pour avoir ce grade plus tôt. Et ça lui permet aussi de s'embarquer et d'apprendre les rudiments de la marine. Et du coup, assez rapidement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plus ou moins déserter l'armée britannique. Et en 1811, une petite dizaine d'années après s'être engagé dans l'armée, il va s'embarquer pour le Venezuela en Amérique du Sud.
C'est pas rien à l'époque de s'embarquer pour le Venezuela quand même.
Alors à l'époque, c'est pas rien du tout. C'est très loin hein, en effet. Mais en même temps, si on se replace dans le contexte, c'est un moment où ça paraît beaucoup plus simple que ça n'a jamais paru. Ça prend moins de temps, on connaît mieux les endroits. Et par ailleurs, il y a une sorte de mode un petit peu de toutes ces nations sud-américaines à l'époque qui gagnent petit à petit leur indépendance par rapport aux Espagnols. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez à la mode, en tout cas à Londres et chez les Britanniques. C'est quelque chose, en tout cas, qui est un petit peu vecteur de rêve pour les Britanniques de l'époque. Donc, c'est pas le seul à être attiré par cette partie du monde et à y aller.
Et c'est là que débute sa carrière d'escroc international ?
C'est là, géographiquement, que commence sa carrière d'escroc. Après, il va falloir qu'on attende encore quelques années. Quand Gregor MacGregor arrive au Venezuela, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer sa carrière de soldat, mais comme un mercenaire, il va s'engager auprès des indépendantistes sud-américains. Et du coup, il va jouer un rôle assez important dans les guerres d'indépendance des nations d'Amérique centrale ou du Sud, dans les futures républiques bolivariennes, en fait. Il va même servir sous les ordres de Simon Bolivar lui-même. Il va être décoré de l'Ordre des Libérateurs, du Venezuela et tout, donc il fait une vraie carrière de mercenaire au sein de ses luttes pour les indépendances sud-américaines. ça se passe bien pendant quelques années. Et en tout cas, on n'a pas vraiment de signe que quoi que ce soit se passe mal. Mais il y a un peu un moment où il va dérailler. En tout cas, il y a un moment où il est attesté qu'il commence à dérailler. C'est en 1817, donc ça fait déjà quelques années qu'il est en train de naviguer dans toute la Caraïbe et de connaître très très bien cette zone du monde. En 1817, Simon Bolivar lui confie un projet d'invasion de la Floride. On lui confie de l'argent. Et ce qu'il doit faire, c'est recruter un équipage, acheter un bateau et envahir la Floride. C'est ce qu'il va faire, sauf qu'il ne va jamais payer l'équipage qu'il a recruté. Il va effectivement recruter des gens, prendre un bateau, partir, effectivement saisir une petite ville en Floride qui s'appelle Amelia Island, mais c'est plus une petite garnison espagnole qu'ils vont saisir pendant une journée. Et ensuite, ses troupes lui demandent leur solde. Et lui, à ce moment-là, il en profite pour s'en aller, fuir aux Bahamas et laisser toutes ses troupes derrière. On imagine que c'est pas du tout la version qui va servir à ses supérieurs, parce qu'en fait, ce schéma, son premier coup d'escroc, il va ensuite le répéter et en faire toute une collection pendant toutes les années qui vont suivre.
Ah oui, il répète plusieurs fois l'arnaque. Et ça passe auprès de sa hiérarchie ?
Ça doit pas être si compliqué, puisque tout ça se passe à quand même des centaines de kilomètres de l'endroit où se trouvent ses supérieurs. Donc je pense qu'il doit leur servir une version bien différente de la version réelle. Et puis c'est pas très compliqué de dire que ça s'est très mal passé, tout le monde est mort, on s'est battu héroïquement, on a vraiment tout donné, mais rien n'a été possible. En tout cas, on suppose que ça a dû se passer comme ça, puisqu'on lui confie d'autres missions de ce type. Quelques temps plus tard, il va faire exactement la même chose, mais à Portobello, au Panama, où là, il met en place un petit peu la spéciale Gregor MacGregor, qui est « je recrute les gens, je les paye pas, on attaque effectivement l'endroit qu'on nous a demandé d'attaquer, on le prend, parce que c'est pas si compliqué que ça, ce sont des petits forts de garnison, qui sont pas forcément tous aussi bien défendus les uns que les autres, donc on le prend effectivement, on y passe une nuit, et le temps que, en fait, les Espagnols se replient et puis contre-attaquent, et au moment où il y a la contre-attaque espagnole, lui, il fuit, il laisse sur place toutes ses troupes, qui se font toutes massacrer par les Espagnols. Donc, il ne doit pas spécialement raconter comme ça une nouvelle fois à ses supérieurs, mais c'est sa façon de s'enrichir, en tout cas, à ce moment-là. C'est sûr que c'est quelque chose qui semble impossible juste avec un téléphone portable et Internet, mais à partir du moment où toute la communication prend des mois à se faire, une lettre met des mois à arriver, si elle arrive, ça fonctionne beaucoup sur la confiance. Il doit être extrêmement bon à ça, oui. Il a gagné la confiance de ses généraux sud-américains, aux côtés de qui il a combattu et il a fait des faits d'armes, donc c'est une confiance qu'il a vraiment gagnée au combat. Mais on sait qu'à partir de 1817, en tout cas, il s'est attesté qu'il commence à se retrouver dans des coups un petit peu trop louches.
Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche.
Approche sur le chemin ?
Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde.
Et s'il y a personne qui approche, on revient.
Non, vous montez la garde.
Alors Jules, après avoir siphonné les caisses de l'armée avec des missions où il empochait les frais au détriment de ses troupes, il passe à autre chose ?
En tout cas, ça lui a donné une autre idée. En 1820, il se rend sur un endroit qui s'appelle la Côte des Moustiques. C'est l'actuelle côte atlantique du Honduras et du Nicaragua, en Amérique vraiment centrale. C'est une toute petite portion de la côte. Il s'y rend, il rencontre le souverain de la Côte des Moustiques et il lui achète une portion de terre. Ce qui est intéressant, c'est que Gregor MacGregor, il se contente pas d'inventer le pays. D'abord, il en fait l'acquisition en vrai. Donc il fait vraiment l'acquisition d'une parcelle de terre. Simplement, c'est une parcelle totalement vierge. Cet endroit-là, le centre de l'Amérique centrale, c'est de la forêt très très dense, parce que c'est très joli à voir, encore aujourd'hui, puisque ça n'a pas vraiment été urbanisé, c'est quand même toujours de la forêt très très dense. Et donc, en fait, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est aussi un endroit où, du coup, il y a un climat qui est assez propice à la malaria, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de ville. Voilà, en gros, il achète une énorme parcelle de forêt qui se situe entre deux villes, enfin entre deux caps, et l'embouchure hypothétique d'une rivière. Ça, il l'achète au souverain de la Côte des Moustiques contre du rhum et des verreaux. Assez classique pour un Européen de l'époque, il sera en Amérique et puis contre trois fois rien, il achète des trucs énormes. Donc ça, il le fait vraiment.
Et c'est un grand territoire ?
C'est à peu près la taille du Pays de Galles. Donc c'est quand même assez grand. Mais en même temps, il le possède un peu sur le papier tant que ce souverain de la Côte des Moustiques a décidé que ce territoire lui appartenait. Mais bon, on est encore très loin de titres de propriété à valeur internationale. Quoi qu'il en soit, il est quand même propriétaire de cette parcelle, de cette grande parcelle, en Amérique centrale. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer à Londres, fort de cette acquisition, il va s'inventer un statut. Il va pas dire qu'il est empereur, il va pas dire qu'il est roi, il va s'inventer un titre qu'il aime bien, c'est cacique. Donc il va dire que je suis le cacique du Poyès. Le Poyès, c'est le nom de ce pays qu'il a inventé, du coup. Et il va rentrer en Angleterre et à partir de là, commencer à faire une promotion très importante autour de cette nouvelle nation.
Mais faire la promotion d'un pays inventé, en quoi ça lui rapporte de l'argent cette fois ?
Gregor MacGregor va mettre sur pied une arnaque qui est totalement dans l'air du temps. Ce qu'il va faire, c'est que maintenant qu'il a créé son pays, il peut émettre un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire qu'il va commencer à vendre de la dette. C'est un mécanisme qui se fait pour tous les pays du monde, et à l'époque, il se fait pas mal aussi pour ces nouveaux pays d'Amérique du Sud, qui sont, ma foi, des pays assez récents, et pour lesquels on achète déjà des obligations, et où il y a un marché de la dette, de la Colombie, par exemple, à cette époque. Donc l'objectif de Gregor MacGregor, c'est de vendre des obligations pour son pays fictif, et du coup, il va tout simplement émettre 200 000 livres d'obligations, ce qui est énorme, à son retour à Londres. Et maintenant qu'il a émis ses obligations, il faut bien qu'il arrive à les vendre. Donc, ce qu'il doit faire, c'est une lourde opération de promotion de son pays, qu'il va entamer lui-même, puisque comme Gregor MacGregor est de bonne famille, il a une bonne éducation, et il a aussi beaucoup de choses à raconter pour la bonne société londonienne de l'époque. Il revient quand même de quasiment 10 ans dans la Caraïbe et en Amérique centrale, où il a fait la guerre, où il connaît très bien la piraterie, il connaît des hauts lieux de la piraterie, comme la Jamaïque, par exemple, qu'il connaît très bien. Donc on peut imaginer que dans les salons londoniens de l'époque, il n'y a aucun problème à vendre du rêve à tous les gens qui ne connaissent pas du tout ses activités de mercenaire. Donc, d'une part, il a son bagou personnel et puis son bagage issu de tous ses voyages. Et puis, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va tout simplement éditer un livre qu'il va signer d'un pseudonyme, Thomas Strangeways, mais on sait que c'est lui. Et ce livre s'appelle « Description de la côte des moustiques, dont le territoire du Poyès ». C'est un gros livre quand même, hein, qui fait plusieurs centaines de pages, une sorte de guide de routard en fait de la zone. Simplement, il invente absolument tout dedans. C'est un coup de publicité phénoménal pour son territoire, mais où absolument tout est faux. Il va même parfois un peu trop loin, par exemple, il assure qu'on peut faire 3 récoltes de maïs par an, alors que c'est pas possible de faire 3 récoltes de maïs par an. Il assure qu'il y a des mines d'argent, il assure que les Indiens sont extrêmement sympathiques et font beaucoup de commerce. Il assure aussi qu'il y a énormément d'épices qui poussent et qu'on peut faire du coup du commerce et que ça peut faire une nouvelle route des épices. Enfin, il fait le cocktail parfait pour donner envie à tout le monde d'investir dans son pays.
Peter, tout est exactement comme je l'avais rêvé. Oh, regarde que j'en avais vu les sirènes. Par Saint-Georges. Et la réserve des Indiens. Oh, regardez, voilà le capitaine Crochet et les pirates.
Il crée une mythologie de toutes pièces.
Il a créé un pays, mais il lui a donné aussi une capitale, une devise, un hymne, un drapeau, une monnaie, des émissions de dettes, du coup. Et il a aussi beaucoup travaillé sur le système de noblesse du pays, donc qui n'existe pas et n'a jamais existé, hein, mais il a inventé tout un système de noblesse assez complexe, de noblesse basée sur la terre, mais aussi pas basée sur la terre. Il a inventé des grades dans l'armée du Poyès aussi. Donc, il a beaucoup travaillé la crédibilité sur tout plein de points, mais qui sont en fait uniquement sortis de sa tête, puisqu'il n'y a jamais personne qui a habité à cet endroit-là.
C'est un as de la communication et du marketing avant l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire des qualités de Gregor MacGregor, bien qu'elles servent le côté obscur ?
Je pense qu'on peut dire qu'il a une longueur d'avance sur son époque, parce que, en tout cas, lui, il a l'avantage d'être allé à ces deux endroits géographiques. Il connaît Londres et les îles britanniques, et il connaît la Caraïbe, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Les gens, normalement, ils en connaissent surtout un des deux, en fait. Et du coup, lui, ce qu'il a bien compris, c'est que, vu le temps que mettaient les nouvelles à arriver, tout ce qu'il avait fait au Venezuela, avant que ça rattrape à Londres, il avait l'occasion de vraiment sortir le grand jeu avant. Donc oui, il a compris quelque part, c'est une forme d'as de la communication. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est dans un contexte où tout ça, ça paraît très plausible pour la société londonienne de l'époque. C'est un contexte où il y a beaucoup d'agitation géopolitique en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il y a des nations très jeunes qui se font et se défont au rythme des guerres d'indépendance. Et le temps qu'on en entende parler, peut-être qu'elle n'existe plus, d'ailleurs, cette nation dont on a entendu parler, ou peut-être que la guerre a été perdue, ou ça a changé de sens, on ne sait pas si c'est la même personne qui le dirige toujours. Donc, c'est un moment où ça bouge beaucoup, en tout cas. Donc, les gens ne sont pas forcément étonnés de voir quelqu'un débarquer en disant « il y a un nouveau pays ». Aujourd'hui, on serait très étonnés de ça, mais à l'époque, pas forcément. Il y a aussi toute cette mode pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le fait qu'il a un fort pouvoir de persuasion et puis qu'il va aller dans tous les salons londoniens pour raconter tout ce qu'il connaît. Et donc, lui, il connaît beaucoup de choses sur le territoire.
Et avec toutes ces cartes en main, ses affaires marchent bien ?
Ça marche plutôt très bien. Il arrive à vendre toutes ses obligations, déjà, et à se faire pas mal d'argent. Mais surtout, à force de faire de la publicité pour le pays, qu'est-ce qu'il y a comme meilleure publicité pour son nouveau pays que des colons qui voudraient s'y embarquer ? Donc en fait, il va faire une vaste campagne de recrutement de colons pour venir s'établir là-bas. Donc sa campagne de recrutement est un succès, il va réussir à recruter plusieurs centaines de candidats à la colonisation de ce nouveau territoire, et il y a effectivement 2 bateaux qui vont partir avec à leur bord 250 migrants en 1822 pour rejoindre le Poyès. Il faut savoir que MacGregor, il avait recruté essentiellement des colons écossais et que ça, pareil, dans le contexte de l'époque, c'est quelque chose qu'il a su mettre à son profit, c'est-à-dire le problème des Écossais rapport à la colonisation. Les Écossais, ils ont eu une seule tentative de colonisation en 1707, à peu près au même endroit, à un endroit qui s'appelle le Darien, vers le Panama, qui avait englouti à l'époque une somme astronomique, on parle de 1/5 du PIB écossais de l'époque, et qui s'est soldé par un fiasco. Donc ils ont essayé, et ça n'a jamais marché. Et lui, du coup, ça lui fait un bon argument pour recruter des colons écossais, de leur dire ce sera un peu notre revanche sur cette colonie du Darien qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'il la joue aussi un petit peu. Bon, c'est un territoire idyllique, mais difficile. Pour arriver à vivre dessus, est-ce qu'il ne nous faudrait pas être un vrai Écossais ? Et essayer d'un petit peu flatter comme ça le côté on est des Highlanders, on habite à des endroits difficiles et tout, il les a un petit peu recrutés sur ça aussi. Et donc surtout, ils recrutent vraiment des migrants qui s'embarquent à destination d'un pays qui n'existe pas. Et quand ils arrivent, ils pensent qu'ils se sont trompés d'endroit, parce qu'il n'y a rien. Ils s'attendaient à trouver ne serait-ce qu'un port, mais il n'y a vraiment rien, c'est juste des plages avec une forêt. Donc ils débarquent tout le monde et un bateau repart à Londres, illico, pour demander si on se serait pas par hasard trompé d'endroit. Le temps que le bateau arrive, MacGregor aura déjà fui vers Paris de toute façon, et les 250 colons qui se sont installés du coup sur une plage de la côte des Moustiques, ils vont y rester à peu près un an. Ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils venaient pas pour inventer une colonie de peuplement, ils venaient pour profiter d'un endroit qui existait déjà. Donc c'était pas comme les Français qui se sont installés en Nouvelle-France au Canada par exemple et qui savaient qu'ils allaient devoir tout créer ex nihilo. Là c'était des gens qui étaient venus et qui étaient plus médecins, qui étaient plus avocats, juges, même certains paysans aussi, mais il n'y avait rien à cultiver. Donc ils étaient vraiment pas adaptés pour ça et il y a eu des luttes internes qui fait que ça s'est mal passé entre eux et ensuite ils se sont fait récupérer au bout d'un an par un bateau qui les a débarqués à Belize en Amérique centrale. Mais à ce moment-là, il y avait déjà 180 morts sur les 250.
Papa a acheté une ville. Qu'est-ce que vous dites ?
Tu as sous les yeux le maire de Geronimo.
Adieu l'Amérique !
Nous avons tous rêvé.
On est arrivé, Geronimo !
De tout quitter pour partir à l'aventure.
On va repartir à zéro !
Je réalise mon plus vieux rêve.
Quand la vision obsessionnelle d'un homme fait du paradis un enfer.
Ah oui, ce n'est pas qu'une arnaque, c'est une horreur, c'est une véritable hécatombe.
Ils sont à peu près tous morts de la malaria. En même temps, on est sur la côte des moustiques, qui tire son nom du fait qu'il y a beaucoup de moustiques. Donc on est sur un combo moustique, forêt vierge, climat tropical, et on met là-dedans 250 Écossais. Du coup, la malaria les a décimés très rapidement.
Et l'arnaqueur criminel, il a payé pour ça ?
Il a fini par se faire pincer, mais pas aussi facilement qu'on aurait pu le penser. Déjà, le temps que tous ces colons arrivent au Poyais et puis en reviennent en disant « dis donc, il n'y a pas un problème avec ce pays », lui, il s'était déjà enfui à Paris, où il a continué à faire la même chose, à vendre des obligations pour le Poyais et à essayer de recruter des colons. Il a réussi à recruter une trentaine de colons à Paris, et puis à ce moment-là, ça s'est mal passé, je ne sais pas exactement comment, mais il a fini par se faire repérer. Je pense que le mot avait fini par arriver, que son expérience de colonisation n'avait pas fonctionné car le pays n'existait pas, et il a fini par se faire repérer par la police française, qu'il a arrêté, jugé, pas pour l'ensemble de son œuvre, si j'ose dire, sur le Poyais, mais juste pour la partie qu'il a fait en France. Et du coup, il est condamné à un an de prison, qui fait à Paris. Et puis quand il sort de prison, là, pour le coup, il se dit « ce serait peut-être temps de me faire oublier » et il retourne au Venezuela. Ce qui est intéressant, c'est que le Venezuela, c'était le premier endroit où il était arrivé, si on se rappelle de son histoire. Et c'est là aussi où il avait combattu sous les ordres de Bolivar et avant ça du général Miranda. C'est là où il n'était pas encore un escroc, si vous voulez. Donc, il avait vraiment participé à ces guerres d'indépendance. Donc, en fait, au Venezuela, c'est un peu quelqu'un, Gregor MacGregor. Il a quelques contacts. Et du coup, c'est pour ça que quand il doit vraiment fuir et qu'il se dit « il faudrait que j'arrive à me mettre au vert quelques instants », il se retrouve au Venezuela. Il retrouve ses contacts. Au bout d'un certain temps, il obtient la nationalité du Venezuela, donc il devient un citoyen du Venezuela. Il obtient aussi une pension de militaire au titre de ses exploits dans la guerre d'indépendance. Quand il finira par mourir en 1845 à Caracas, il va avoir le droit à un enterrement militaire de première classe dans la cathédrale de Caracas avec le président de la toute jeune République du Venezuela, mais aussi ses ministres qui vont lui donner du coup les honneurs dus à presque un héros des guerres d'indépendance.
Une histoire qui donne l'occasion de se réjouir de ce que les moyens de communication actuels nous évitent.
C'est fini, 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 fini.
Merci à Jules Grandin, chef du service infographie des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple, et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité et toutes les séries d'été, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Je ne sais comment faire et je ne sais que dire. Je veux paraître fort une dernière fois. Les larmes au coin des yeux, je me force à sourire.